Vous écoutez
RMC.
RMC.
Arriba Thiago, remata Ramos. Marco Ramos. Real Madrid 1, Atlético de Madrid 1.
Balotelli, Aguero. The greatest moment I've seen in Premier League football.
Deutschland 1-0 durch Andreas Brehme. Alles wie gehabt. Mit rechts, flach ins linke Eck. Coin Coin Shea wusste alles.
Pronto ad andare Pirlo. Il secondo palo, palo d'arrivo.
Gol! Materazzi! 20h, 22h. Génération After.
Nicolas Jamain.
Avec les drôles de dames, Fred Armel, Julien Laurence, Paulo Breitner et Johan Crochet, on en sent jusqu'à 22h, magnifique générique, hein, qui passe de temps en temps lundi soir.
Il est beau.
Hein. Faudrait qu'un jour, on s'arrête également sur les différentes façons de commenter les matchs en télé dans vos pays respectifs. Je crois qu'en Allemagne, il me semble, Polo, hein, c'est pas forcément des duos qui commentent le match. Hein. C'est une seule personne, c'est ça?
Non, c'est les duos maintenant.
Maintenant, il y a un vrai
problème. Non, mais c'est tu poses une super question, parce qu'en fait, il y a un problème. C'est la globalisation. Et c'est des grosses boîtes comme Sky qui ont en fait homogénéisé complètement la façon de commenter les matchs. Et ça fait pas honneur au football des nations, j'ai envie de dire. Quoi. C'est que tout le monde comprenne la même chose au même moment, etc. Donc moi, j'aimais bien à l'ancienne. Tu
moi, vois, aussi, hein. Moi aussi. Moi aussi. Je me souviens d'une Coupe du Monde que j'avais suivi parce que j'étais en Espagne, j'avais suivi sur la CDF et donc c'était pour certains matchs que donnait pas la télévision espagnole et j'aimais bien en fait l'unique commentateur parce qu'on était que sur le match, on n'était pas dans des délires parce que parfois, et ce que j'ai vu le pire en Espagne, c'était sur Antena 3 les matchs de Ligue des Champions commentés par 5 personnes.
Ouais, pas possible.
3 dans la cabine. Une personne en bas, bord terrain, et un consultant arbitre qui était en studio.
Et puis on fera aussi le débat consultant, cher Apollo, un jour, sur vos consultants également, l'approche des consultants dans vos pays respectifs aussi, bien sûr. But de l'Inter, mon cher Johan.
Acerbi, de la tête, exactement. Et donc là, ça commence à être dur pour le Milan, parce que déjà, on passe de perdre le derby, et en plus, c'est ce derby qui va donner le titre au rival interiste, donc. Là, il va rester une bonne 70 minutes pour essayer de faire en sorte de ruiner la fête de l'Inter. Parce que déjà que la saison, elle est pas dingue. Mais si en plus, tu perds ce derby qui donne le titre à l'Inter, ça va pas être génial.
Ce serait beau symboliquement que le vieil Acerbi consacre le titre de l'Inter cette saison. Bon, mon cher Julien, Manchester United a sombré en 30 minutes contre le 8e championship, je parle une demi-finale de Cup, Coventry. 3-0. Puis 3 partout. Au bout, la qualif, certes, mais ça fait tâche. Comment on explique que ce United-là, dont on parle régulièrement lundi soir, on connaît les carences de l'effectif de Ten Hag, a pu sombrer comme ça en une demi-heure contre même pas un cadre championship, même pas une équipe en pleine bourre, en l'occurrence, sous Coventry.
Tout à fait. Ça résume finalement assez bien la saison d'United. Tu l'as dit, les difficultés de cette équipe de Ten Hag, tactiquement notamment, dans le contrôle d'une rencontre qui n'ont jamais fait cette saison, pas simplement contre Coventry hier à Wembley, mais tout au long de la saison où t'es capable effectivement de concéder des buts comme ça avec 2 minutes d'écart, 3 minutes d'écart, 5 minutes d'écart. On l'avait expliqué la dernière fois après la défaite incroyable à Chelsea 4-3, mais ils ont été impliqués cinq matchs cette saison d'une victoire d'une défaite 4-3, ils prennent trop de buts et là encore t'as bien senti qu'il y avait aucun contrôle finalement dans même à 3-0 tu sentais que Coventry pouvait revenir, une équipe de Coventry qui tu l'as dit est pas c'est une équipe intéressante et ils ont failli monter la saison dernière mais ils ont perdu leur meilleur joueur notamment Vitor Gyökeres qui est parti au Sporting Portugal. Donc voilà, c'est même pas un Leicester ou un Southampton en Championship. Et pourtant, en l'espace d'une demi-heure, ils sont revenus à 3-3. Ils auraient dû gagner d'ailleurs en prolongation. Ils ont tiré sur la barre comme Bruno Fernandes, mais et puis ils ont eu ce but qui a d'abord été validé par l'arbitre avant que la VAR n'intervienne pour un hors-jeu de 3 mm juste avant la séance de tir au but. Et quand tu gagnes une séance de tir au but, tu sais, et que le penalty vainqueur, donc le joueur qui a marqué, célèbre et se retourne et qu'il n'y a aucun de ses coéquipiers qui lui court après pour lui sauter dessus, c'est que tu sais très bien le degré d'embarras finalement qu'a touché Manchester United et ses joueurs parce que ils sont passés très 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 proches de la catastrophe et même dans un sens c'était catastrophique de se retrouver là dans ce match-là qu'ils avaient dominé pendant une heure finalement. Mais voilà, c'est United cette saison. Si t'es supporter de Manchester United, c'est un peu ton quotidien et ça doit être horrible d'ailleurs parce que bah, t'es jamais sûr de rien avec cette équipe et t'es jamais sûr de rien non plus avec Erik ten Hag. Et c'est pour ça, je vais le répéter encore une fois, pour moi, il sera pas là la saison prochaine, c'est impossible. Alors s'il avait perdu hier, à mon avis, il aurait même sauté avant la fin de saison. Là, t'as une finale de coupe à jouer, il sera là jusqu'à la fin de la saison, jusqu'à la finale de la Coupe d'Angleterre contre City, la même que la saison dernière d'ailleurs. Et Sir Jim Ratcliffe, qui est donc le nouveau chef, on va dire, du côté sportif. D'ailleurs, qui a couru le marathon de Londres hier à 71 ans en 4h30. Respect quand même, fort. Le gars. Ouais. Vraiment très, très fort. Et qui est donc ensuite est allé voir cette catastrophe en direct, depuis une des loges de Wembley. Moi, je sais pas, il était à Stamford Bridge quand ils se sont écroulés contre Chelsea. Il a vu quand même des humiliations absolues cette saison, notamment aussi en Ligue des Champions. Je vois pas comment il pourrait garder Ten Hag. Mais la rencontre d'hier, la performance d'hier, les deux facettes finalement de United, le bon côté pendant une heure et le très mauvais côté pendant une autre heure. Pour moi, c'est Ten Hag le responsable aussi avec les joueurs, même s'il a des blessés, même s'il a tout ça. Donc, je vois pas comment il pourrait le garder la saison prochaine.
Bon, Alan Shearer, hein, te rejoint. Il disait aujourd'hui, la décision a déjà été prise, il sera licencié, même en cas de sacre en FA Cup. On verra ça dans les prochaines semaines. Alors, tout beaucoup de messages hein, quand on parle United hein, sur le chat de l'after, notamment. Tu vois, on nous dit Anthony zéro le chambrage. Qu'est-ce qu'on nous dit également? L'interrogation Marcus Rashford aussi, mon cher Julien. Ouais, comment ce joueur a-t-il pu être aussi impactant à United et aujourd'hui presque anonyme dans cet effectif-là. Comment ses performances, son évolution et comment on l'explique surtout?
Oui, alors il a eu quelques soucis dans sa vie privée qui peut peut-être expliquer un petit peu aussi la méforme à un moment. Et surtout, je pense que c'est un joueur qui marche à l'affect, ça c'est sûr, mais qui marche aussi à une dynamique positive si tu veux. Donc c'est le genre de gars typiquement qui s'il marque deux matchs d'affilée, tu sais qu'il est dans une bonne série, que ça va continuer comme ça. Et au contraire, quand il traverse une période difficile, il a beaucoup beaucoup de mal en général à s'en sortir. Et la saison dernière, elle marche très très bien parce qu'il a justement cette dynamique assez incroyable. Il enchaîne et puis tu vois ça. Tout ce qu'il tentait, ça marchait. Il est toujours au bon moment, au bon endroit, au bon moment à chaque fois. Il a un timing parfait. Il a tout cela. Donc, il pense à rien d'autre finalement. Il sait que tout s'emboîte parfaitement. Là, quand tu commences mal la saison, c'est compliqué. Il y a eu quelques rumeurs l'été dernier sur le fait que United puisse vouloir le vendre, des choses comme ça. Et au final, c'est difficile pour lui. Après, je pense que ça reste un joueur super talentueux, il y a aucun doute là-dessus, mais je sais pas. De toute façon, ça marche pas pour l'équipe. C'est pas que lui, hein, Bruno Fernandez, c'est pas une bonne saison. À part le jeune Kobbie Mainoo dont on a souvent parlé, les autres c'est catastrophique, c'est compliqué. José Mourinho dans une interview aujourd'hui dans le Télégraphe disait mais il y a encore des joueurs dans cet effectif, dans cette équipe aujourd'hui. Même moi, j'en voulais plus il y a 6 ans déjà quand j'étais là. Il y a 5 ans, 6 ans.
Il parle de qui?
Pourtant, ils sont toujours là.
Il parle de qui? Il parle de Maguire.
Ouais, un Wan-Bissaka par exemple aussi. Tu vois des joueurs qui ont pas le niveau pour être là, C'est pas, j'ai rien contre Wan-Bissaka, j'ai rien contre Maguire, mais c'est pas bon, c'est pas le niveau. Scott McTominay non plus. À la rigueur, peut-être des joueurs pour être dans l'effectif, mais c'est tout. Alors là, tu les mets titulaires parce que effectivement, c'est ce qui est vrai, c'est qu'ils ont eu beaucoup de blessés. Mais Liverpool a eu beaucoup de blessés, Newcastle a eu beaucoup de blessés. C'est pas, il y a pas que eux non plus en Europe qui a eu beaucoup de blessés. Et encore une fois, pour moi, le manque de leadership que tu vois encore à 3-0, ils prennent le but du 3-1 et tu sens tout de suite au stade ou devant ta télévision que c'est en train de tourner. Il y a aucun leader ni sur le terrain ni sur le banc de touche. Ten Hag, c'est pas un leader, il a aucun charisme, il a aucune personnalité. Les joueurs à un moment, je pense, ont arrêté de le respecter aussi, si l'on respecter un moment déjà. Et sur le terrain, c'est pareil. Casemiro, il a pas envie d'être là, tu le vois très bien.
Il est venu pour l'argent. Ah ben, est-ce que tu as vu l'interview qu'il a donnée au Chiringuito?
Carlo Ancelotti était quasiment en larmes quand.
Ah non, en larmes, il dit qu'il voilà et qu'à ce moment-là, il était en larmes et que.
Quand il va dans son bureau, Casemiro va dans son bureau
et il dit au revoir à Ancelotti et il se retourne et il voit que Ancelotti est en larmes. Je m'étonne pas de Carlo, mais.
Mais rappelle-toi, il voulait pas y aller, Fredo.
Mais non, mais il est allé pour les sous.
Voilà, il est allé parce que c'était une offre impossible à refuser.
Mais voilà, c'est ça. Donc. Et c'était tellement d'argent voilà. Et il a raconté dans cette interview avec Edouard Guiré, qu'il connaît très bien, donc c'est vraiment une belle interview, qu'à un moment, il s'est dit, est-ce que je suis pas en train de faire une bêtise? Et là, il s'est dit, oui, mais bon, j'ai donné ma parole et voilà. Donc, c'était pas signé, mais j'ai donné ma parole. Et puis voilà, après, j'imagine que sa famille aussi, ils l'ont dit, écoute, tu prends un chèque énorme que tu prendras jamais au Real, tu en profites, mais C'est, il gagne combien, Casemiro?
Alors, bon, en plus, c'est un contrat de 4 ans avec une option supplémentaire, donc potentiellement 5 ans. Et je crois, hein, je me rappelle plus exactement les trucs, mais je crois qu'il est pas loin des 350 000 euros par semaine.
Donc, ça fait combien par an? Parce que nous, on calcule en.
Donc, tu vois, je sais pas, ça ferait du 1,4 million par mois.
Ah ouais, d'accord. Ah oui,
ça ferait
17 millions.
Je crois qu'il était à quelque chose comme 18 millions l'année.
Non, bah oui, on y va, on y va.
C'est incroyable.
Bah oui, mais enfin, c'est.
Son âge, c'est incroyable.
C'est trois fois plus qu'au Real, quoi.
Bien sûr.
Bon, non, c'est
ça nous rappelle également qu'il y a 11 ans jour pour jour, j'ai vu ça sur Twitter, Robin Van Persie marquait le but du titre pour United face à Aston Villa, notamment. Voilà, c'était il y a 11 ans déjà.
Dernier titre de champion.
Dernier titre de champion. Tout à fait. Voilà pour United. Je sais que vous êtes très nombreux à être fans de United, à poser des questions à Julien régulièrement. Voilà, on en parlera jusqu'à la fin de la saison. On évoquera aussi la succession éventuelle d'Erik ten Hag. Beaucoup.
Attends, juste pour finir rapidement, parce qu'on a parlé d'un chambrage tout à l'heure d'Anthony. C'est peut-être le pire finalement de ce qui s'est passé hier, et ça montre encore bien où est le club de Manchester United. C'est que quand Hoyland marque et que les pauvres joueurs de Coventry sont complètement effondrés, le seul qui se retourne pour chambrer, qui met les mains derrière les oreilles, c'est Anthony quand même. Cette pipe d'Anthony qui a coûté 80 millions d'euros, qui sert à rien, qui a marqué contre Newport en coupe d'Angleterre, et qui se permet d'aller chambrer des joueurs de Championship qui sont 8e, qui ont même mieux joué que toi sur la dernière, je comprends pas. Moi, pour moi, je suis désolé, mais c'est un scandale absolu.
Voilà, le coup de gueule de Julien. Dans un instant, le Bayer Leverkusen, l'invincible, encore 6 matchs pour faire une saison, 8 matchs hein, d'une totale invincibilité. On en parlera avec Polo, et puis bien sûr Gérone hein, qui s'assure, et ça c'est un événement cette saison. Personne n'y avait l'avait imaginé, une place en Coupe d'Europe et certainement en Ligue des Champions. Reste avec nous, toujours 1-0 pour l'Inter sur la pelouse du Milan après 28 minutes de jeu. Les Drôles de Dames sont là jusqu'à 22h et 21h45. Vos appels au 32-16, le standard est ouvert. Max est là, appelez, posez vos questions à Fred, Polo, Julien et Johan. À tout de suite sur RMC.